En ce qui concerne l'israélologie, nous avions commencé à faire un état des lieux, c'est-à-dire essayer de discerner ce qu'a été la doctrine traditionnelle de l'Église par rapport à Israël tout au long des siècles. Et donc là, nous avions vu d'abord l'époque ancienne, l'époque de l'Église ancienne, et maintenant nous allons voir donc ce qui concerne une époque un peu plus récente. En fait, ce qui apparaît dans la tradition chrétienne d'une manière générale, c'est l'idée d'une séparation, de prendre des distances vis-à-vis d'Israël. Et depuis Nicée, notamment, l'Église est bâtie sur une théologie anti-juive et en même temps sur une interprétation non littérale de l'Écriture, le rejet justement de l'interprétation littérale de l'Écriture, sans laquelle la dite théologie juive est impossible. Autrefois, pendant la première période, donc la période pré-nicéenne de l'Église, la question qui se posait était celle-ci: quelle est la place des chrétiens, des païens dans l'Église? Aujourd'hui, et depuis Nicée, c'est la question inverse qui se pose: quelle est la place des juifs dans l'Église? Par exemple, l'expression qui est devenue maintenant universelle, Ancien Testament, Nouveau Testament, est la première manifestation de cet anti-judaïsme chrétien. Et aujourd'hui, on a du mal même à percevoir qu'il puisse y avoir une connotation négative dans ces deux termes, Ancien et Nouveau Testament. En fait, c'est Irénée de Lyon qui, dès le 1er siècle, a été le premier à employer cette expression, qui, en quelque sorte, définissait deux sphères tout à fait différentes. L'Ancien Testament, c'est donc ce qui est caduque, ce qui est dépassé, ce qui est donc dépourvu de valeur. Hein, c'est ancien, donc ça n'a plus d'intérêt. Et c'est tout juste bon pour les Juifs. Le Nouveau Testament, c'est au contraire positif, c'est ce qui est nouveau, ce qui est l'héritage des chrétiens. Et cette manière de raisonner se trouve au niveau du chrétien moyen, qui, d'abord, de notre temps, lit de moins en moins la Bible en général, et de moins en moins l'Ancien Testament. Au plus, lit-on le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament est considéré justement par beaucoup de chrétiens moyens dans les églises comme quelque chose de totalement dépourvu d'intérêt. Il faut dire que les liturgies des grandes églises contribuent justement à faire, à donner cette impression. Et il y a en général, n'est-ce pas, une lecture de l'Ancien Testament qui introduit la lecture du Nouveau Testament. Et l'homélie est toujours tirée des évangiles ou des épîtres, très rarement de l'Ancien Testament. En fait, l'expression Ancien Testament, qui renferme justement cette réalité pour les Juifs, se retrouve aussi, même jusque dans les chaires de théologie, depuis le haut de l'échelle jusqu'au bas de l'échelle, le professeur d'Ancien Testament dans une faculté de théologie, et quelqu'un qui finalement n'est pas très, comment dirais-je, dangereux, pas très intéressant, parce que il ne touche finalement à que des choses du passé, des choses historiques, qui finalement sont sans valeur théologique. On ne construit pas de théologie à partir de l'Ancien Testament. Et par conséquent, l'assimilation peuple d'Israël, peuple juif, ça veut dire religion passéiste, sans valeur, sans intérêt, est quelque chose qui rime avec Ancien Testament. Par exemple, un hébraïsant sera ipso facto considéré comme un spécialiste de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui s'occupe de la civilisation juive, de même, Et on ne veut pas prendre en compte le fait que le Nouveau Testament est aussi un livre juif, au même titre que ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, finalement, l'expression « Ancien Testament », qui est fausse, bibliquement parlant, parce que jamais la Bible, enfin, l'Écriture, ce que Jésus appelait l'Écriture, qui était sa Bible, c'était la Bible de Jésus, c'était la Bible des apôtres, la seule. Jésus a dit d'une manière très claire que cette Écriture-là ne peut pas être anéantie, qu'il ne passerait pas un seul iota et un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. C'est à cette Écriture, à ces Écritures, que Paul se réfère constamment. C'est sur elles qu'il appuie les affirmations qui sont les siennes. Et par conséquent, même l'Épître aux Hébreux, et je dirais peut-être même surtout l'Épître aux Hébreux, qui, comme nous l'avons vu la dernière fois, est détourné de son but, n'est-ce pas, d'une manière absolument incroyable, scandaleuse. On oublie qu'elle est écrite à des Juifs, et c'est la raison pour laquelle on évite d'employer l'expression Épître aux Juifs, mais qu'on emploie l'Épître aux Hébreux, parce que justement, Hébreux, c'est vraiment quelque chose d'ancien, de passé, de dépassé, même par rapport à la Bible elle-même, puisqu'à partir de l'époque de la monarchie, à partir de l'époque de David, le terme hébreu n'est plus employé pour parler du peuple d'Israël. Par conséquent, on est vraiment là dans quelque chose de passéiste. Et l'expression « Ancien Testament » devrait être, en fin de compte, abolie, prescrite du vocabulaire chrétien, ne serait-ce que par égard justement à nos amis juifs, pour lesquels, justement, cette expression est injurieuse. Ça, il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. Parler d'Ancien Testament à un juif, c'est automatiquement lui faire injure. C'est évident, c'est évident. C'est ce qui est le plus étonnant, c'est justement de constater que, dans le monde chrétien, on ait tellement de mal à voir ce que, justement, l'expression Ancien Testament puisse avoir de désobligeant pour un juif. C'est Eusèbe de Césarée, le premier, qui dans son histoire ecclésiastique, écrite sous Constantin, considère, comme nous avons vu cela déjà quand nous avons parlé du millénium, que l'avènement de l'empereur et sa conversion au christianisme correspond à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Le monde est devenu chrétien, nous sommes donc entrés dans le millénium. Par conséquent, on n'a plus besoin des Juifs. Et là, justement, il faut bien comprendre la relation étroite qu'il y a entre l'antijudaïsme chrétien et l'amillénarisme, la négation du millénium. Nous avons vu cela quand nous avons étudié justement l'amillénarisme. L'amillénarisme conduit automatiquement à l'antijudaïsme. Parce que, justement, dans ce royaume de Dieu qui vient de s'instaurer, les Juifs sont un corps étranger, sont une épine qui, non seulement sont des gens dont on n'a plus besoin, mais qui sont gênants. Il faut donc les rejeter et les remplacer. Eusèbe est donc le premier à rejeter officiellement cette notion du millénium, et en fait, c'était déjà Origène d'Alexandrie qui avait un petit peu déjà ouvert ce chemin-là. Eusèbe était un élève d'Origène, c'était un adepte de l'école d'Alexandrie. Pour Eusèbe, d'ailleurs, la seule tradition exacte, c'était celle qui venait d'Alexandrie, et il était donc très en opposition avec la tradition d'Antioche, vous savez, c'est le premier siècle de l'Église. C'était cette opposition entre les deux écoles, l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche. Origène, justement, était un adepte, et on le sait, de l'interprétation allégorique. Origène était le maître de l'allégorie. Et pour lui, donc, il est le premier à faire l'équation entre Église et Israël. Là où la Bible écrit Israël, il faut comprendre, nous dit Origène, Église. Et la lecture allégorique de l'Ancien Testament, je mets l'Ancien Testament entre guillemets, n'est-ce pas, la lecture allégorique qui voit justement dans les prophéties relatives à Israël des prophéties qui concernent l'Église est quelque chose que l'on doit directement à cette école ultra-allégoriste, pour ne pas dire hyper-allégoriste, qui était celle d'Alexandrie, sous la direction d'Origène en particulier. En fait, Origène, comme la plupart des pères de l'Église de cette époque-là, étaient des philosophes, des gens qui étaient imbus de la philosophie grecque et qui essayaient de réconcilier l'Évangile avec la philosophie grecque, pour deux raisons. La première, justement, dans un souci d'évangélisation et d'apologétique, dans la mesure où la philosophie grecque était l'idéologie dominante du monde romain, il s'agissait de démontrer que, somme toute, l'Évangile n'était pas en opposition avec les philosophes, mais au contraire, le véritable accomplissement. Et ainsi, on avait un levier important dans l'évangélisation du monde romain, et notamment des élites. Ensuite, deuxième raison, parce que eux-mêmes, étant des gens qui étaient épris de cette philosophie-là, éprouvaient pour eux-mêmes le besoin, justement, de réconcilier cette philosophie avec l'Évangile, qui était tellement différent de cette philosophie, comme on le voit dans ce que Paul écrit aux Corinthiens, n'est-ce pas, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, que pour eux, c'était une tension qui était quasiment insupportable. L'Alexandrie a toujours été un grand centre de philosophie, et il est donc en quelque sorte compréhensible, mais non pas logique, n'est-ce pas, que des philosophes de l'endroit aient cru devoir faire cette synthèse. Et alors on assiste à ce glissement absolument extraordinaire, où la philosophie d'Aristote et de Platon, et la philosophie néoplatonicienne qui en a découlé, prend la place justement de, entre guillemets, l'Ancien Testament, comme préparatio evangelica. L'apologétique des apôtres vis-à-vis des juifs, quand ils évangélisaient les juifs, comme on le voit le jour de la Pentecôte, c'était de dire avec l'apôtre Pierre, ceci c'est ce qui a été écrit par le prophète. Ce que vous voyez, ce que nous vous annonçons, c'est ce qui a été annoncé par les prophètes. Par conséquent, les réalités, les faits, les grands faits de l'Évangile accomplissent les prophéties bibliques. Ça, c'est l'apologétique du Nouveau Testament. Bon. Pour les Grecs, pour les non-juifs, dire Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, dans sa glorification, accomplit les prophéties et les promesses faites aux juifs, ça ne veut rien dire. Et alors, justement, dans la mesure où, pour les apôtres, les Écritures et les prophéties notamment étaient une préparatio evangelica, une préparation à l'Évangile, eh bien, on évacue maintenant l'Écriture, l'Ancien Testament, qualifié maintenant d'Ancien Testament, pour remplacer l'Écriture par la philosophie. La philosophie est en fait la véritable préparatio evangelica. Alors vous avez des centaines, voire des milliers de pages écrites par les différents pères de l'Église, en toute cette période des pères, n'est-ce pas, qui reprend en long, en large et en travers ce thème, n'est-ce pas, avec de nombreuses variantes, de nombreuses anciennes, mais finalement c'est toujours la même pensée. Alors, on sait que Eusèbe de Césarée, dans ses outrances, est allé très très loin. Origène est allé très très loin dans ses outrances. Notamment, il avait une eschatologie qui n'était pas claire. Il croyait, vous le savez, à la réconciliation finale. Il croyait que, à la fin, le diable lui-même serait sauvé et pardonné. Bon, c'était ce qu'on appelait la réconciliation finale. Bon, l'Église officielle a, en quelque sorte, condamné Origène comme hérétique. Mais même si elle a condamné les aspects les plus outranciers du système d'Origène, la grande Église, l'Église officielle, a adopté l'essentiel de son système. Et ce système, il a été appliqué, évidemment, ce système d'allégorisation, il a été appliqué en ce qui concerne les prophéties bibliques en accord avec, en relation avec Israël. D'ailleurs, c'était intéressant de noter que Eusèbe lui-même accusait ceux qui étaient en contre, ceux qui étaient, n'étaient pas d'accord avec lui, qui n'étaient pas d'accord avec son système, d'être juifs. C'était l'injure suprême dans sa bouche. Telle doctrine qu'il désapprouvait était une doctrine juive. Et quand on avait dit ça, quand Origène avait dit ça, il avait tout dit. Enfin, c'était l'excommunication en bonne et due forme. En fait, c'est peu ou prou ce qu'on retrouve aujourd'hui dans certains milieux. Et on ne se rend pas compte, justement, que contrairement à ce qu'affirmait Origène, la crédibilité du christianisme vient justement de ce qu'elle accomplit littéralement les prophéties, entre guillemets, de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi toutes les tentatives d'évacuer l'Ancien Testament, que ce soit le gnosticisme de Marcion au IIe siècle, que ce soit donc ici les différents systèmes issus du système d'Origène, parce que finalement, ces systèmes, on les retrouve jusqu'à nos jours, avec des variantes. Mais le système d'Origène, il est plus florissant que jamais dans les églises, par rapport à Israël en particulier. Bon, on le retrouve maintenant avec une nouvelle jeunesse et une nouvelle vigueur sous l'influence de la théologie palestinienne que nous avons examinée ces derniers temps. C'est pas ? Et que ce soit donc Marcion, que ce soit Origène ou que ce soit Arafat, à partir du moment où ils délégitimisent les prophéties, ne serait-ce qu'en faisant une lecture allégorique comme Origène, eh bien, ils sapent la crédibilité du christianisme. Et un des grands problèmes de ce temps, justement, un des grands problèmes de l'incroyance de ce temps, c'est que, justement, le christianisme apparaît de plus en plus comme un électron libre qui ne repose sur rien. Bon. La philosophie de Platon et d'Aristote, elle est l'apanage de quelques spécialistes, de quelques philosophes fumeux, n'est-ce pas ? Mais demander à l'homme de la rue ce qu'il pense de Platon, ce qu'il connaît d'Aristote, et bon, c'est même pas la peine d'épiloguer, quoi. Hein. Donc, il est évident que dire aujourd'hui à l'homme de la rue le christianisme est cohérent avec Platon, il va partir d'un grand éclat de rire. Il ne croit pas davantage en Platon qu'en l'Évangile, que dans l'Évangile. Bon. Et pour cause. Si l'Évangile vient de Platon, Platon étant complètement déconsidéré, pourquoi croirait-on davantage à l'Évangile ? Bon, si l'Évangile dépend justement d'une relecture palestinienne de l'histoire biblique, Arafat a beau être populaire dans la population, il n'est populaire que dans la mesure où il s'en prend à Israël. À partir du moment où les Arabes s'en prennent à nos pays, c'est autre chose. Ce qui est résistance légitime qu'on admire quand des kamikazes tuent des Israéliens, des enfants et des femmes israéliens, devient tout simplement un crime horrible et monstrueux quand on tue nos techniciens à Karachi. Bon. Alors, le palestinisme a quand même assez vite sa limite. Et voilà, justement, ici, on a fait cette faute, qui était celle d'Origène, de croire que, justement, déjudaïser l'Évangile serait une manière de le rendre plus accessible aux non-juifs. Eusèbe, nous avons dit, reprend cette idée. Et Eusèbe aussi reprend à son compte l'idée gnostique qui court partout dans le christianisme aujourd'hui, d'un royaume de Dieu qui serait uniquement intérieur dans les cœurs. Ça, c'est une idée, si vous voulez, qui est tellement ancrée dans le christianisme qu'on ne se rend même pas compte aujourd'hui qu'elle est anti-biblique. Vous n'aurez pas un seul verset du Nouveau Testament, ni dans les évangiles, ni dans les épîtres, qui appuie cette idée d'un royaume qui ne serait qu'un royaume dans les cœurs. Alors, je sais bien qu'on nous citera le texte de Jésus quand il nous est dit, n'est-ce pas, « Des jours viennent, vous voudrez voir un de ces jours du Fils de l'homme, et alors, je vous dis, n'allez pas ici, n'allez pas ailleurs, car le royaume de Dieu est en vous. » Le seul problème, c'est que cette traduction n'est pas juste. Quand on retraduit cette phrase en hébreu, c'est « Amalchut Bekir Bechem ». Et ça, c'est une citation du prophète Sophonie. « Réjouis-toi, fille de Sion, car je viens habiter au milieu de toi. » Bekir Becha. Donc le royaume de Dieu est au milieu de vous parce que le roi est au milieu de vous. Il habite au milieu de vous. C'est-à-dire parmi vous, mais pas dans vos cœurs. Et justement, les traducteurs, conditionnés qu'ils sont par Euseb, continuent à faire cette faute dans les traductions, même celles que nous utilisons. Le royaume de Dieu est en dedans de vous, donc dans vos cœurs. C'est le seul texte que l'on peut invoquer en faveur de cette théorie et de cette thèse, et encore une fois, nous avons vu que, au point de vue strictement linguistique, elle est intenable au point de vue de la traduction. N'est-ce pas ? Mais encore une fois, nous sommes tellement habitués à considérer que le royaume de Dieu est tout simplement un royaume intérieur, que il suffit de voir l'hymnologie, les chants, les cantiques, qui reprennent ce thème d'un royaume dans les cœurs, d'un royaume intérieur. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y ait pas quelque chose d'intérieur dans l'Évangile. Bien sûr que l'Évangile est quelque chose qui doit pénétrer les cœurs. Mais ça n'est pas le royaume. C'est pas parce que, justement, nous avons à intérioriser, à avoir toute une vie intérieure profonde, que c'est à confondre avec les choses dernières, avec le royaume de Dieu. Alors, à partir du moment où nous avons reçu l'Évangile, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, à partir du moment où nous nous sanctifions en prenant au sérieux l'Évangile, eh bien, ça y est, le royaume de Dieu est là. Et par conséquent, nous n'avons rien d'autre à attendre que la mort qui va, en quelque sorte, mettre en évidence tout ce que cette vie nouvelle que nous avons reçue dans notre cœur va manifester. Bon. Alors, il n'est pas question ici de dire, évidemment, que la mort du chrétien n'est pas quelque chose qui l'amène dans une situation tout à fait bonne. C'est meilleur, dira l'apôtre Paul, aller avec le Seigneur est infiniment meilleur pour moi que de rester ici, c'est un fait. Mais encore une fois, ça n'est pas le royaume. Ça veut dire qu'au-delà de ces choses, il y a une autre réalité. Une réalité que justement la Bible appelle le royaume. Et ce royaume, qu'on le veuille ou non, il a un roi. Il est le roi d'Israël. C'est Jésus. Hein? Jésus, le roi d'Israël. Le roi des Juifs, comme l'avait dit Pilate sur la croix, ce qui gênait énormément ceux qui voyaient ça, Juifs et non-Juifs. N'écrit pas « Il est le roi des Juifs », écrit « Il a dit qu'il est ». Et voilà. Pilate a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Bon. Et je relisais dernièrement, justement, je réétudiais à fond les textes où il est question de, par exemple dans l'Ancien Testament, peut-être un jour je ferai une étude là-dessus, je ne sais pas si c'est possible, n'est-ce pas, mais les textes de la Genèse notamment, les promesses faites à Abraham. Et il m'est apparu une chose que je n'avais jamais vue jusqu'alors, n'est-ce pas, c'est que si Dieu promet à Abraham deux choses, d'une part une descendance, d'autre part une terre, Dieu promet aussi à Abraham et à ses descendants, c'est-à-dire à Isaac, Jacob et Joseph, puis Moïse et puis David, n'est-ce pas, une expansion politique, sociopolitique universelle. Ça, c'est indéniable quand on reprend les textes de la Genèse. Et on est tellement conditionné, je suis tellement conditionné moi-même, par justement cette intériorisation du royaume, que je viens juste de me rendre compte de cette réalité qui saute aux yeux. Et je me disais, oh là là là, mais on peut pas écrire ça, on peut pas. On peut pas dire ça aujourd'hui dans le monde chrétien. On se ferait lapider, on se ferait rejeter. Et pourtant, on retrouve ça dans l'alliance avec Abraham. Tu seras le père d'une multitude de peuples, d'une multitude de nations, d'où le nom d'Avram qui devient Abraham, le père d'une multitude de peuples, pas seulement le père du peuple, mais d'une multitude. C'est ça ? Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Comment seront-elles bénies ? Parce que justement, tu domineras sur eux. Ta descendance dominera la porte de ses ennemis. C'est ce que dit Laban et Bethuel à Rebecca quand elle s'en va pour épouser Isaac. C'est la prophétie du Shiloh. La tribu de Juda, par son chef, le Messie, le Shiloh, dominera sur les peuples païens. Enfin, c'est... Et vous retrouvez ça dans l'alliance avec David, l'alliance de Nathan, quand Nathan vient annoncer à David que le Seigneur lui bâtira une maison, et il lui rendra son nom grand comme celui de tous les rois de la terre, n'est-ce pas? Salomon, au psaume 72, sa domination s'étendra sur la terre entière, etc. C'est indiscutable. Ou alors, justement, si on veut refuser absolument cette chose-là, on est obligé, eh bien, d'allégoriser. Et de dire, ça, on ne peut pas prendre ça au sens politique, il faut prendre ça au sens spirituel, d'une influence Jésus qui règne sur les cœurs. Et puis on retombe justement dans cette idée du royaume dans les cœurs. Et c'est le système de Zeb. Il n'y a pas à attendre justement une domination universelle du Seigneur, et par conséquent par l'intermédiaire de son peuple. Simplement, justement, un certain nombre de gens décident de lui donner leur cœur dans le monde entier. Il y aura des gens du monde entier qui se tourneront vers Jésus, qui seront chrétiens. Ben, c'est ça, le royaume de Dieu. Jésus est le roi de ces cœurs-là. Bon, je ne dis pas que ce soit absolument faux, que déjà, comme nous pouvons dire, comme chantons, il est notre roi, etc. Bon, c'est vrai. Mais ce n'est pas le royaume. C'est une situation transitoire, c'est une marche vers le royaume, mais ce n'est pas encore le royaume. Or, justement, on veut nous faire prendre ça pour le royaume, pour quelque chose qui est déjà arrivé. Et voilà, donc, c'est cette idée que le royaume de Dieu, la croissance du royaume de Dieu, est proportionnelle de la croissance de l'Église, puisque c'est l'Église qui est Israël dans son ensemble. Et alors, on arrive maintenant à cette idée que le millénium, l'idée du millénium, est une hérésie juive, dixit Euseb. Prenant, d'ailleurs, il se rend bien compte qu'il est en cela en opposition avec les apôtres et avec les premières générations, qui, elles, au contraire, croyaient véritablement en un millénium au sens propre du terme, n'est-ce pas? On trouve ça déjà aussi chez Justin dans le fameux dialogue, la première disputation avec Tryphon, on a déjà vu ça. L'idée que le Seigneur a aboli cette promesse qui avait été faite à Israël, c'est ce que défend Justin, qui était aussi un adepte des philosophes, c'est pas devant Tryphon. C'est une idée tout à fait farfelue, et que les païens ont pris la place d'Israël. Donc c'est eux, nous dit Justin, qui hériteront avec les patriarches, les prophètes, de tout ce qui est premier Israël, y compris de la Terre Sainte et y compris de Jérusalem. Justin croit à une reconstruction terrestre de Jérusalem, mais de cette Jérusalem, les Juifs seront exclus et les chrétiens, le nouvel Israël, eux seuls auront droit d'y être, avec l'exception des patriarches et des prophètes, et des justes de l'Ancien Testament. Mais tous les juifs de son temps, et tous les juifs qui viendront après lui, en seront ipso facto exclus. On ne peut mieux illustrer justement ce qu'est la théologie de la substitution, la théologie du remplacement. Ce qui est intéressant, c'est de noter à ce sujet la réflexion de l'Irénée de Lyon, dans les années 70-80 du IIe siècle. Et on est à la troisième génération après les apôtres, avec Irénée, n'est-ce pas? Irénée est lui-même un disciple de Polycarpe, qui lui-même était un disciple de Jean. Et Irénée met en garde, il dit, on n'a pas le droit, c'est son expression, de regarder par-dessus l'épaule des apôtres pour corriger leur copie. Car après tout, qui sommes-nous, nous, qui vivons deux générations après les apôtres? Qui sommes-nous pour dire qu'ils se sont trompés? Qui sommes-nous pour dire que, sur tel point, ils étaient encore englués dans une vision judaïsante des choses? Et qui sommes-nous, en quelque sorte, pour corriger leurs écrits? Et Irénée plaidait pour une prise au sérieux de tous les écrits des apôtres, y compris ce qui concernait justement l'eschatologie, même si, nous avons vu que déjà, lui, il avait introduit aussi une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais par contre, il défendait à fond l'idée du millénium. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple une traduction comme la Théobée, la traduction œcuménique de la Bible, si vous lisez les introductions, souvent d'ailleurs épouvantables, qu'il y a dans l'édition complète, que je ne vous recommande pas, eh bien, cette idée est exprimée. Bon, les apôtres qui montaient au temple, par exemple, au moment de la guérison du paralytique de la belle porte, il faut constater, dit une note de la taupe, que les apôtres étaient encore marqués par le judaïsme dont ils ne s'étaient pas encore totalement dégagés et qu'ils continuaient encore à fréquenter le temple, quoi, pour un temps. Bon, ça n'allait pas durer, heureusement, n'est-ce pas? Et la présentation, l'introduction au livre des Actes nous dit que justement, eh bien, on voit au travers du livre des Actes l'Église qui est d'abord engluée dans toutes les traditions juives, s'en dégager peu à peu pour devenir justement l'Église universelle. Bon. Ça veut dire que les apôtres étaient encore imbus de préjugés, de superstitions juives, et dont le Saint-Esprit les a dégagés peu à peu, dont l'Église a été dégagée bien après la mort des apôtres. Finalement, on est dans un système romain. Et à partir du moment où les protestants reprennent cette idée, ils la reprennent, ils ne se rendent pas compte qu'ils retournent au système romain, à savoir qu'il y a une tradition, n'est-ce pas, et que le Saint-Esprit conduit l'Église dans une appréhension de plus en plus grande de la vérité par la tradition. C'est ça l'idée catholique de la tradition. C'est que, finalement, l'Écriture est une tradition à un certain moment de son histoire, mais qu'on ne peut pas rester figé sur la tradition de l'Écriture parce qu'elle est limitée à une certaine époque. Donc, c'est pourquoi on emploie l'expression « Église primitive », et c'est pour ça que je refuse cette expression. Je préfère celui d'Église ancienne, parce que « Église primitive » signifie que cette Église est encore dans les premiers stades de son développement et qu'elle a encore bien des choses à apprendre. Alors on emploie évidemment le texte de Jésus, le Saint-Esprit, j'ai encore bien des choses à vous dire que vous ne pouvez comprendre maintenant, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bon. Par conséquent, le ministère romain, le magistère romain, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, qui ne s'est jamais démenti tout au long des siècles, a conduit l'Église de son état d'Église primitive, infantile, naïve, n'est-ce pas, à une connaissance et une compréhension toujours plus grande de la vérité. Quand les protestants, n'est-ce pas, reprennent cette idée que l'Église primitive, entre guillemets, avait besoin de se dégager de sa gangue juive, et qu'ils l'ont fait après la mort des apôtres, finalement, grâce à des gens justement comme Justin, comme les pères de l'Église, finalement, c'est quand même aberrant de voir que, en fait, les Églises issues de la Réforme continuent à se référer aux pères de l'Église. Alors que les pères de l'Église sont en fait les fondations même du système romain, du système que la Réforme a rejeté. Ce qui montre jusqu'à quel point, justement, l'Ecclesia Reformata et Reformanda, ça veut dire la Réforme est toujours à faire, la Réforme n'est pas achevée, c'est une évidence, c'est une évidence même. Et bon, autre point, alors maintenant, autre étape très importante dans cette dérive, c'est Nicée. Nicée, donc, avec Constantin, bon, on est ici à la même époque, voyez-vous, Origène, on est un petit peu avant, Eusèbe, on est en plein dans la période de Constantin, et Nicée, évidemment, c'est l'apogée du constantinisme. Bon, vous savez à quel point je suis nicéen en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne le symbole de Nicée, n'est-ce pas, que je considère comme un chef-d'œuvre inégalable et inégalé, de résumé de la doctrine. Mais si l'apport de Nicée dans ce domaine a été absolument décisif et absolument essentiel, eh bien, sur le plan justement de l'israélologie, Nicée a été une véritable catastrophe. À Nicée, il y avait un autre enjeu, bien sûr celui de l'unité de l'Église, menacée par le schisme arien. Ça, on le sait, quand on étudie l'histoire de l'Église, on l'a vu. mais aussi c'était de savoir qui allait avoir le leadership dans l'Église. Ça, c'est une question évidemment beaucoup moins triviale, beaucoup plus triviale, beaucoup moins noble, et par conséquent beaucoup moins mise en avant. C'est pas... Mais cette question était loin d'être seconde pour les pères de Nicée. Autre remarque très intéressante quand nous parlons de Nicée, c'est qu'à Nicée n'ont été invités que des évêques non-juifs. Tous les évêques juifs ont été soigneusement oubliés. Ça n'est pas innocent, vous le pensez bien. Parce que justement, c'était l'enjeu de Nicée. Jusqu'alors, le leadership de l'Église, même si ça s'était considérablement affaibli, était quand même encore théoriquement celui de l'Église juive. Bon, il y avait encore des églises judéo-chrétiennes. Il y avait encore, notamment justement en Syrie, en Transjordanie, voire même en Asie mineure, des gens qui marquaient justement par leur emprise. Vous savez que même du temps de Jérôme, un peu plus tard, n'est-ce pas, il y avait encore un évangile en hébreu. Eusèbe d'ailleurs le connaissait, il s'en est inspiré, etc. Bon. D'ailleurs, un des grands reproches qu'on faisait dans l'affaire à cette église, c'était justement qu'elle lisait l'évangile en hébreu. C'était une hérésie grave, bien sûr, que de lire l'évangile en hébreu, vous le comprenez, ça tombe sous le sens. Bien. Maintenant, il y avait un autre problème aussi qui était sous-jacent, c'était le problème de la date de Pâques. Ce qu'on appelait le problème des quadrodécuments. C'est une querelle de l'Église primitive qui nous semble absolument loufoque et sans objet. Bon. Très vite, les premiers chrétiens, bien sûr, se sont mis à fêter les fêtes juives avec aussi la signification nouvelle qu'elles avaient. Pâques n'était pas seulement le souvenir de la sortie d'Égypte, mais aussi le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Pentecôte n'était pas seulement la fête des moissons, mais également le souvenir de la descente du Saint-Esprit. On associait donc aux événements historiques de la première alliance les événements historiques de la deuxième alliance, et c'était tout à fait normal. Mais à partir du moment où les chrétiens non-juifs sont devenus nombreux dans l'Église, plus nombreux que les chrétiens juifs, à partir du moment où l'influence des pères de l'Église non-juifs se sont fait sentir, eh bien, il y a eu des tensions fortes à l'intérieur de l'Église, parce que, somme toute, les non-juifs cherchaient à prendre le pouvoir. Et pour manifester justement cette, pour donner consistance, au nom de quoi contester le leadership des juifs chrétiens, alors justement, on a pris l'habitude, à partir du moment où se développaient des Justins, on a vu tout à l'heure, un certain antijudaïsme dans l'Église, et même déjà Marcion aussi, avec la gnose, n'est-ce pas, mais même si Marcion a été excommunié, ses idées ont continué, son anti-judaïsme en tout cas a continué à faire son chemin, eh bien, pour marquer sa différence, on a commencé à vouloir déjudaïser l'Évangile. Déjudaïser l'Évangile, c'est d'abord au point de vue langue, on l'a vu tout à l'heure. On s'est mis à considérer avec suspicion le fait de lire l'Évangile en hébreu. Ce qui est bien dommage. J'espère qu'un jour on retrouvera cet Évangile hébreu qui était celui des premiers chrétiens. Qui était vraisemblablement l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, c'est pas, ou l'essentiel. Et puis alors aussi, on s'est mis à faire en sorte de célébrer la fête de Pâques, en particulier, donc la fête de Pentecôte, ipso facto, à une autre date que celle des Juifs. C'est-à-dire que, au lieu de célébrer la Pâque le 14e jour du mois de Nissan, comme c'est prescrit dans Exode 12, on a décidé de célébrer la fête de Pâques le week-end qui suivrait justement la première lune de ce mois, la première lunaison de ce mois. De telle sorte que la fête de Pâques tombait toujours vendredi, samedi et dimanche, et on ajoutait le lundi. Souvenir des apparitions du Seigneur le lundi. Bon. Alors, cette question, et d'autres questions afférentes, le dimanche, ou respect du Shabbat, des questions relatives à ces choses-là, ont provoqué des tensions. Un certain nombre de gens, non seulement, pas seulement des juifs d'ailleurs, mais un certain nombre de gens qui voulaient rester fidèles à la tradition ancienne, se sont dit, eh bien, nous refusons cette nouvelle manière de voir les choses. Nous restons fidèles à la tradition ancienne, qui consiste justement à célébrer Pâques. D'ailleurs, on a changé, c'est la Pâque en hébreu, et les chrétiens emploient l'expression les Pâques. Ça aussi, c'est pas innocent. C'est pour montrer que les Pâques chrétiennes sont foncièrement différentes de la Pâque juive. Bon. Et alors, ce qu'on appelait les quadrodécuments, eh bien, ont refusé justement cette évolution. Ils ont dit, nous restons fidèles à la tradition du 14e jour de Nissan. Et on a commencé à se combattre au sein de l'Église pour cette question de la Pâque. C'est allé jusqu'à des violences qui ont conduit à des meurtres. On s'est entretué pour cette question. Ça nous paraît grotesque, ça nous paraît ridicule, ça nous paraît complètement démesuré, mais c'était un fait. Parce que, justement, pour les anti-quadrodécuments, célébrer Pâques le 14e jour de Nissan, c'était une hérésie grave parce que c'était une hérésie judaïsante. Et alors, justement, cette question divisait l'Église chrétienne, déjà empoisonnait les rapports entre les chrétiens depuis des décennies, alors qu'on était au milieu des persécutions. Et c'est Nicée qui a tranché le problème. Parce que derrière, justement, cette question qui peut nous sembler stupide, quand même, se battre pour un jour, se tuer pour ça, c'est ce que Paul dit aux Colossiens, enfin quoi, que personne ne vous juge au sujet des nouvelles lunes, des fêtes, des Shabbats, choses comme ça, que chacun ait une pleine conviction. Si Paul avait été là, il aurait dit, tu veux célébrer Pâques le 4e de Nissan, ben, tu es parfaitement libre de le faire. Tu veux célébrer Pâques le week-end qui le suit, tu es parfaitement libre de le faire. Qu'est-ce que ça... C'était très second. C'était pas si second que ça, parce que justement, derrière ça, c'était la question du leadership. Les quadrodécuments étaient ceux qui étaient partisans de rester fidèles à la tradition ancienne, tradition qui venait des apôtres, par conséquent à une certaine judaïsation de l'évangile. Et les anti-quadrodécuments avaient la vision inverse. Or, justement, à Nicée, que se passe-t-il? Eh bien, l'empereur est non seulement le chef de l'Empire, mais il est le chef de la chrétienté. Et l'empereur, qui est un théologien de haut niveau, comme chacun sait, il n'était même pas converti, puisqu'il ne s'est converti officiellement que sur son lit de mort, l'empereur a décidé que la fête de Pâques serait celle des anti-quadrodécuments. Et que tous les quadrodécuments étaient des hérétiques qu'il allait poursuivre. Et c'est Constantin qui a officialisé notre fête de Pâques telle que nous la célébrons encore jusqu'à ce jour. À quoi tiennent les choses, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens l'ignorent, notamment dans nos milieux protestants en particulier. Et donc, Constantin a aussi déclaré qu'il était interdit aux chrétiens de célébrer le jour du Seigneur le samedi, le Shabbat, mais le dimanche. Et que le dimanche symbolisait la victoire du christianisme sur les juifs. La victoire de l'Ancien Testament, de le Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était le samedi, et le Nouveau Testament, c'était le dimanche. Voilà ce que dit d'ailleurs Arafat, nous combattrons le samedi, puis nous combattrons le dimanche, comme ça nous mettrons tout le monde d'accord. Mais ils ont bien compris la théologie constantinienne. Arafat a bien compris cette théologie. Le samedi, c'est l'Ancien Testament, c'est les Juifs. Et le dimanche, c'est le Nouveau Testament, c'est les chrétiens. Pour Constantin, il faut, pour que son plan s'accomplisse, c'est-à-dire que le christianisme devienne le facteur d'unité de l'Empire, parce que c'est son problème, Constantin. Son problème n'est pas spirituel, il est politique. L'Empire est une mosaïque de peuples, de cultures, de religions, de tout ce qu'on voudra, et il risque de tomber en morceaux. Alors, finalement, il y a une puissance, une idéologie montante dans le monde romain, c'est le christianisme. Et le coup de génie de Constantin, génie politique s'entend, c'est d'utiliser le christianisme combattu, abhorré et haï par ses prédécesseurs, pour en faire le ciment de l'unité du monde romain. Être romain, ça voudra dire être chrétien. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'ont compris les musulmans. Vous savez qu'en arabe, le mot chrétien se dit roumi. Ça veut dire romain. Les chrétiens sont des romains. Voilà, pour les musulmans. Ils ont compris la théologie de Constantin. Être chrétien, c'est être romain. Être romain, c'est être chrétien. Mais les juifs, alors, là-dedans? Ah ben voilà, problème. Les juifs sont un facteur de désunion dans l'Empire romain, dans l'homogénéité que donne le christianisme à l'Empire romain. Et il faut les éliminer. Ils deviennent ennemis. Il faut une séparation complète avec les juifs. Et dit Constantin, cette séparation est non seulement possible, mais elle est voulue par Dieu lui-même, par le Christ lui-même. Et une des premières mesures, justement, c'est celle qu'il a prise à Nicée. Alors, on entend dans la bouche de Constantin des propos extraordinaires. Les juifs sont ce qu'il y a de pire dans l'humanité, bien entendu, puisqu'ils refusent de s'intégrer pleinement au monde romain. Et alors, les premières accusations qui vont faire fortune jusqu'à nos jours, les Juifs ont crucifié Jésus. Voilà, le déicide apparaît là. Et alors, les Juifs non seulement menacent l'unité de l'Église, parce qu'ils ont leurs antennes jusqu'à l'intérieur de l'Église. C'est ça qui est grave. Ces quadro-décuments là, ce sont des suppôts des Juifs. Alors, ces Juifs, il faut les séparer des chrétiens pour qu'ils puissent plus avoir aucune influence sur les chrétiens. Il faut donc déjudaïser l'Évangile, il faut déjudaïser le christianisme, et quant aux Juifs eux-mêmes, bah, si on pouvait les tuer tous, ce serait pas mal. Mais enfin, on n'est encore qu'au IVe siècle, et on est encore loin d'avoir inventé les chambres à gaz qui permettent une extermination industrielle des gens. S'il fallait s'amuser à passer tous les Juifs de l'Empire au fil de l'épée, ben, on n'en finirait pas. C'est une tâche impossible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les exiler. Qui part de l'Empire, notamment de la Palestine, comme on l'appelle à cette époque-là? Et la Palestine, qui devient à ce moment-là la terre sainte des chrétiens, devient une terre interdite aux Juifs. Et le mouvement de dépopulation des Rêtes d'Israël, qui avait commencé avec Constantin, avec Bar Corba, s'accentue avec Constantin. Voyez-vous? Alors on chasse les Juifs dans l'Empire Parthe, qui partent en Babylonie. Bon. Malgré ça, il y a des Juifs qui restent. On ne peut pas les chasser tous non plus, ils sont trop nombreux. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les humilier. On va leur rendre la vie le plus impossible possible, de manière à les pousser à la conversion si c'est possible, et sinon les écœurer pour qu'ils partent ailleurs. Et puis, si vraiment ils s'obstinent à rester, leur état d'humiliation, d'appauvrissement sera tel que ben, ils seront plus dangereux, quoi. On va les réduire au maximum. Et alors justement, avec Constantin, on passe aussi à une nouvelle étape, c'est que la source d'autorité n'est plus la Bible, mais c'est le Concile. Le Concile devient la source de l'autorité suprême dans l'Église, et la volonté du Seigneur s'exprime par leur bouche. Et quand on dit à Constantin, oui, mais la Bible dit, m'en fiche moi de la Bible, je ne connais pas la Bible. Qu'est-ce que c'est la Bible? Nous avons dit tout à l'heure. La Bible, c'est tout simplement une étape de la révélation de Dieu. Oui, autrefois, Dieu a parlé par les apôtres. Bon, c'est vieux tout ça. Maintenant, la Bible parle par la bouche des pères conciliaires. Maintenant, Dieu, plutôt le Saint-Esprit, parle par la bouche des pères conciliaires. Voilà. Et si les pères conciliaires revoient la copie des apôtres, comme disait Irénée, eh bien, c'est que c'est comme ça. C'est eux qui ont raison. Parce que ce qui est plus récent a plus d'autorité que ce qui est plus ancien. Et ça, Mohamed dit exactement la même chose. Mohamed dit, moi je viens après tous les autres. Et si donc je contredis tous les autres, c'est moi qui ai raison, puisque je suis le plus récent. Et quand on ne se rend pas compte, quand on dit les trois religions du livre, dans l'ordre du judaïsme, dépassé par le christianisme, Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament est dépassé par le Coran, parce que le Coran est venu après. Donc le Coran a plus d'autorité que le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus l'idée qui pénètre dans notre Occident, y compris dans les milieux chrétiens. Dernièrement, dans un grand journal missionnaire, il y avait toute une étude, j'allais dire biblique, mais à la place de l'étude biblique qu'on trouvait d'habitude dans ce journal, dans ce magazine, c'était une étude coranique sur la sourate des 10 dormants. L'étude avec tous les outils de la critique biblique qui sont employés par ces maîtres que sont ces gens de l'Église réformée, ces théologiens de l'Église réformée. Mais voilà. C'est logique. À partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, il n'y a pas de raison que ça s'arrête nulle part. Alors, maintenant, puisque Israël veut rester différent des autres nations, eh bien, il est normal, Dieu veut qu'Israël soit exilé au milieu des nations, qu'Israël soit humilié, qu'Israël soit opprimé, qu'Israël soit persécuté. Et c'est le successeur de Constantin, Justinien, qui donne le fameux code qui porte son nom et qui définit le statut des Juifs dans la société byzantine, statut de citoyen de second ordre. Et là aussi, ironie et juste retour de l'histoire, quand Omar est arrivé à Jérusalem, il a trouvé ce code de Justinien, il a trouvé ça magnifique. Il a trouvé que c'était absolument génial comme trouvaille, il l'a appliqué aux chrétiens, non seulement aux Juifs, mais aux chrétiens. Et le code de l'Adima, ce qu'on appelle le pacte d'Omar, n'est simplement qu'une christianisation du code de Justinien, qui était destiné à réduire les juifs en citoyens de second ordre, et les musulmans l'ont utilisé pour réduire les juifs et les chrétiens à la condition de citoyens de second ordre. Juste retour des choses, on te mesurera avec la mesure dont tu as mesuré les autres. Alors, bien sûr, il y a eu de tout temps des juifs qui se convertissent au christianisme, et du temps de Constantin, il y en avait aussi, n'est-ce pas ? Mais à condition qu'ils cessent d'être juifs. Voilà. C'est la conséquence de cette évolution-là. Alors, là, on arrive à ce qui est aujourd'hui universellement accepté, et qui remonte justement à cette vision politique de Constantin. Le peuple juif, parce que justement il est un peuple rebelle, ne pourra pas arrêter l'œuvre de Dieu. Selon ce qui est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles, etc., etc. Bon, par exemple, c'est ce qu'on retrouve aussi à l'époque de Cromwell, quand il est question justement de réintégrer les Juifs dans l'Angleterre, finalement, les puritains qui sont autour de Cromwell se disent, mais enfin, il y a quand même quelque chose de curieux dans toute cette affaire d'Israël, c'est que le peuple d'Israël a subsisté depuis des siècles, depuis qu'on a essayé de l'éliminer avec Nicée, depuis que les chrétiens ont essayé de l'éliminer, il subsiste. Or, En tant que chrétien, nous savons bien que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Bon. Si Dieu a permis que le peuple juif subsiste jusqu'à nos jours, est-ce qu'on ne se serait pas un peu trompé quand même quand on dit que le peuple d'Israël est éternellement maudit? Est-ce que justement Dieu n'aurait pas en réserve pour le peuple d'Israël autre chose que cet état de servitude ou cet état d'humiliation auquel nous l'avons réduit? Et c'est à cette époque-là que la théologie des pères, la théologie d'Origène, la théologie de Constantin, puis nous allons voir ensuite l'influence de Saint-Augustin, eh bien, est remise en question. Remise en question dans les milieux protestants. Et finalement, ce sont les puritains de l'époque de Cromwell qui sont les premiers à attirer l'attention des lecteurs de la Bible sur le texte d'Éphésiens 2, verset 12. D'ailleurs, comment on le traduit en français, justement, ce texte-là? Parce que nous, il y a un mot qu'on n'a pas en français, que les Anglais ont. De verset 12, c'est ça, j'ai dit. Oui, de verset 12. Voyons comment est-ce que c'est ici. Vous étiez, vous, païens autrefois, donc sans Messie, ouais, livrés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et justement, la version du roi James, du roi Jacques, avait traduit cette expression, vous étiez sans Messie, privé du Commonwealth en Israël. L'expression Commonwealth, richesse commune. Et les puritains ont été les premiers à s'interroger sur ce mot Commonwealth. Et se dire finalement, par rapport à Israël, les chrétiens sont dans un commonwealth, les chrétiens païens sont dans un commonwealth, c'est-à-dire des richesses communes. Mais qu'est-ce que nous avons de commun aujourd'hui avec les juifs, au fait? Et est-ce que là, on n'aurait pas fait quand même quelques erreurs? Est-ce que nous sommes vraiment héritiers à la place d'Israël ou avec Israël, à côté d'Israël? Voilà ce qu'a été l'intuition des puritains. Ça a été le remise en question. Jusque maintenant, quand on interprétait ce verset, finalement la traduction, même la colombe ici, laisse entendre ça. Hein, les païens sont héritiers à la place d'Israël. La théologie de la substitution. Et les puritains sont les premiers à dire, mais on s'est planté complètement. Le texte biblique nous dit, nous sommes héritiers non pas à la place d'Israël, mais à côté d'Israël, avec Israël, nous partageons la richesse d'Israël. C'est donc qu'Israël n'en a pas été dépossédé. C'est donc qu'Israël n'a pas été déchu de ses prérogatives. Tout au plus, il y a un faux pas temporaire, mais pas une exclusion ad aeternam. Et ça a été le début justement de la remise en question de cette théologie qui, hélas, va subsister malgré les puritains, mais qui va donner naissance justement à tout le courant évangélique.
Les attentifs par rapport à ces premières questions, jusqu'où on est d'accord, jusqu'où on
est? Je ne connais pas très bien, mais je pense que finalement les adventistes ont un peu l'idée, ne serait-ce que par le respect du Shabbat, qu'ils sont le nouvel Israël. Je crois que ça, c'est peu douteux, hein, c'est peu douteux. Puisque donc ils mangent cachère comme les juifs, ils respectent le Shabbat comme les juifs, etc. Pourquoi? Parce qu'ils y sont, à la place d'Israël. Je crois que ça c'est clair. Hein, c'est clair.
Ils respecteraient un peu comme les premiers chrétiens, le principe que eux-mêmes auraient respecté, ou alors aussi?
Non, je pense que c'est l'optique est différente. L'optique est différente. Les premiers chrétiens respectaient parce que ça s'était toujours fait comme ça, c'était une coutume qui remontait aux apôtres même. Car contrairement à ce que même l'apôtre Paul, nous voyons Paul qui vient à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte. Il veut être à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte. Ce n'est pas la Pentecôte chrétienne qui vient célébrer à Jérusalem. C'est tellement peu la Pentecôte chrétienne qui vient offrir un sacrifice dans le temple. Pas très chrétien, ça. Hein? Donc, il est évident, c'est clair, d'ailleurs, Irénée le dit. Il dit les apôtres gardaient les fêtes juives, célébraient les fêtes juives. Et par conséquent, on voit Luc faire pareil. Luc dit, bon, nous avons entendu le jeûne pour nous embarquer, quand le dernier voyage de Paul en direction de Rome. Le jeûne, c'est quoi? C'est le jeûne de Kippour. Bon, pourquoi? Parce qu'on ne voyage pas un jour de Kippour, en tradition juive, jusqu'à aujourd'hui. Bon, nous, donc Paul, Luc se met dans leur nombre. Luc, le non-juif, a attendu aussi le jour du Kippour, l'après Kippour, pour partir. Bon, il n'a pas choisi, c'est Paul qui a décidé, d'accord. Enfin, le non-juif qu'il était a respecté Kippour comme les autres. Bon. Automatiquement, les premiers chrétiens ont fait pareil. Alors, on fait souvent grand cas du texte, le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Donc, voyez-vous, le dimanche, etc. D'oublier une chose, c'est que le jour commence la veille pour les juifs. Donc, le fameux repas dont il est question a eu lieu le samedi soir. C'était tellement vrai que Paul a prolongé son discours tard dans la nuit. Et donc, le fameux épisode de ce pauvre Tychus qui est tombé de la fenêtre. Bon. Pourquoi ? Parce que le soir, comme dans les synagogues, on avait un repas le soir dans la synagogue, à Motsé Shabbat, à la sortie du Shabbat. Donc, le samedi soir. Bon, ben on lui avait donné ce sens nouveau, c'était la fraction du pain. On rompait le pain le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le premier soir, après le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'on avait fait dans la journée ? On avait fait les lectures prévues par la Paracha et l'Aftara, c'est évident. C'est clair que c'est comme ça que faisaient les premiers chrétiens. Bon. Alors, on ne lui accordait pas plus de valeur que ça, c'était la coutume, c'est tout. Les apôtres avaient fait comme ça, on continue à faire comme ça. Et c'est une volonté, quand on a changé les choses, ce qui à la limite était légitime bibliquement. C'est pourquoi, par exemple, moi je ne me battrai pas comme les adventistes pour un retour au Shabbat. Même si je dis que ça a été une erreur. Mais parce que Paul nous dit que personne ne vous juge des Shabbats, etc. Donc je n'autorise pas les adventistes à nous juger parce que nous ne célébrons pas le Shabbat. Bon. Mais ce que je conteste, c'est les motivations qui ont mené ce changement-là. Si ça avait été des raisons, par exemple, de commodité. Bon. On est dans une civilisation où le repos hebdomadaire est le dimanche. Bon. C'est de toute façon plus facile pour nous de respecter le jour du repos le dimanche comme tout le monde. C'est une évidence. En Israël, c'est le samedi. C'est normal aussi, c'est plus facile de faire le samedi que le dimanche en Israël. Tout le monde travaille. Bon. Si véritablement les pays musulmans avaient le vendredi comme jour du repos, ce qui n'est pas. On confond justement le jour de la grande prière, c'est la grande prière, mais c'est un jour ouvrable comme les autres pour les musulmans. Mais enfin, on serait en pays musulman, et on serait autorisé dans un pays musulman à célébrer notre religion chrétienne. Bon, et que imaginez que demain, par exemple, il y a à Dieu ne plaise, les musulmans arrivent au pouvoir en France. Bon, ils disent maintenant, le jour du repos, ce sera le vendredi. Bon, ça ne nous gênera pas. On fera notre culte le vendredi matin. Ça ne nous gênera pas. Tu comprends? Bon, des motivations comme ça, elles sont légitimes. C'est des raisons de commodité. Mais là, ce n'était pas ça. Le but, c'était une volonté de rupture. C'était une volonté de déjudéalisation de l'évangile. C'était une volonté de séparer les deux religions. Enfin, ce qui n'était pas encore une religion différente, d'ailleurs, à cette époque-là. On a voulu en faire du christianisme une religion différente du judaïsme. Et c'est cette motivation-là qui est discutable. Pas le fait en lui-même, à la limite, même si le fait est contestable. Mais à la limite, bibliquement, selon ce qu'écrit Paul, bon. Mais c'est la motivation qui était derrière. Derrière, c'était une prise de pouvoir par l'establishment de l'empereur, quoi, qui prenait la direction de l'Église. D'ailleurs, il a divisé l'Église en diocèses selon le modèle de l'Empire romain. Hein. Il a mis ses gens partout, Constantin, quand il s'est converti. Hein. Enfin, converti entre guillemets. Et ça a été donc une relégation de d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle plein sont partis au désert. Hein. Comme on disait, c'était ça. Ils ne s'y reconnaissaient plus non plus. Autre chose ? les moines comme Antoine, tout ça, et Pacôme, tous ces gens-là, qui étaient des Égyptiens, justement, des gens qui étaient, en principe, sous l'influence de gens comme Origène et tout, quoi. Justement, ils ne voulaient pas de ça, ils ne voulaient pas. Ils se rendaient compte que cette philosophisation de l'évangile était négative. Ils étaient très contre, très contre. Ils trouvaient que l'Église, la grande Église, était une Église corrompue. Elle l'était dans ses mœurs et dans son mode de vie, mais elle l'était aussi dans sa théologie. Autre chose ?
Mais apparemment, malgré tout, il y a eu de la résistance de la part des judéo-chrétiens.
Ah oui, mais il y a eu une résistance qui a duré au moins jusqu'au Xe siècle.
Parce que, par exemple, le fameux concile de Vannes, on trouve des mesures prises.
Quelle année c'était ça ?
Je ne sais plus, c'était entre 300 ou 400
de la
Bible. Oui. Et on trouve, parmi les mesures prises, l'interdiction pour les chrétiens d'avoir des relations avec les juifs.
Voilà, tout à fait. Donc, c'était typique des mentalités de l'époque.
Typique. Donc c'est qu'il y en avait, non ?
Il y en avait.
C'est sûr. Il faut attendre la décision d'un duc en 1200 pour que les juifs soient chassés de Bretagne.
Oui, c'est l'époque des expulsions, quoi. Oui, les expulsions d'Europe un peu partout. Maintenant, les judéo-chrétiens ont subsisté dans l'Église jusqu'au Xe siècle. Ils ont subsisté sous deux parapluies. Le premier, sous le parapluie des Nestoriens. Les Nestoriens qui étaient eux-mêmes persécutés par la Grande Église et qui se sont montrés donc compréhensifs et tolérants pour d'autres qui étaient aussi tolérés contre eux. Comme les Nestoriens ont réussi à se maintenir donc en Syrie et Mésopotamie donc jusqu'à nos jours, pratiquement, quoi, hein. Jusqu'à ce qu'ils soient décimés entre les deux guerres par les musulmans, ils ont servi de couverture aux judéo-chrétiens. Et quand l'islam est venu, l'islam de la première époque, l'islam omayyade, qui était trop faible pour persécuter tout le monde, eh bien, a protégé les judéo-chrétiens contre la grande église. Il a préféré s'en prendre à la grande église, et donc jusque vers l'an 1000 à peu près, quoi. On trouve des traces de judéo-chrétiens dans la région d'Alep, notamment. Oui. De gens qui respectaient, donc, qui lisaient l'évangile en hébreu. Ils avaient encore l'évangile en hébreu à cette époque-là. Qui respectaient la Pâque, etc., des choses comme ça, quoi.